et à l'écoute de nos programmes.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui. Eric Manirakis à la présentation de cette édition du vendredi 14 mai 2021. Voici d'abord le sommaire. Au Mali, le Premier ministre Moctar Ouane est reconduit. Il doit former un nouveau gouvernement de large ouverture. Le président nigérian apporte son soutien au chef de la junte militaire au Tchad. En Côte d'Ivoire, la campagne d'incitation à la lecture démarre le 26 mai.
6 mois par an, je mets à lire. Je pense que les enfants vont suivre le pas.
Israël pilonne la bande au Gaza. L'escalade militaire a fait plus de 100 morts depuis lundi. Dans 10 minutes, vous suivrez également les sports, mais d'abord le journal. Le Premier ministre malien, Moctar Ouane, a présenté vendredi la démission de son gouvernement et a été immédiatement reconduit dans ses fonctions. Il doit former un gouvernement de large ouverture en tenant compte de certaines recommandations du président de transition, Bandao. Les précisions de Mohamed Danioko depuis Bamako.
Ce vendredi 14 mai, le Premier ministre Moctar Ouane a remis au président de la transition Bandao sa démission. Aussitôt, il a été reconduit dans ses fonctions. Moctar Ouane aura donc la mission de former dans les jours à venir un tout nouveau gouvernement. Pour Ibrahima Timbo, directeur du groupe Énergie, ce gouvernement doit être celui de l'inclusivité.
Après cette démission, certainement qui sera l'occasion pour la transition de rectifier ce qui n'a pas marché, en tout cas, de trajectoire comme on le dit. Et peut-être on peut s'attendre à un gouvernement d'inclusivité, hein, un gouvernement qui va faire en sorte que les Maliens se reconnaissent aujourd'hui dans les autorités de transition. Parce que quoi qu'on dise du débit de la transition à maintenant, ce qui est demandé par la majorité, c'est d'aller vers l'inclusivité.
Il faut noter que la démission reconduction du Premier ministre Moctar Ouane intervient juste après le départ du médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, qui était à Bamako pendant 3 jours pour rencontrer l'ensemble des acteurs de la mise en œuvre de la charte de la transition. Et aussi, elle intervient au moment où la centrale syndicale, l'UNTM, s'apprête à aller en grève, et ce, à partir du lundi prochain. Mohamed Danioko, VOA, Bamako.
Au moins 3 personnes ont été tuées la nuit dernière dans une nouvelle attaque dans le village d'Owasakore, commune de Tin-Akof, du nord du Burkina Faso, déjà visée il y a 5 jours, selon un élu local. Dans la nuit du 8 au 9 mai, la même commune de Tin-Akof avait déjà été le théâtre d'une attaque qui avait fait 3 morts. Un soutien de taille pour les autorités de la transition tchadienne, le président nigérian Muhammadu Buhari, qui a reçu ce vendredi le chef de la junte au Tchad, Mahamat Idriss Déby, s'est engagé à poursuivre la coopération entre les deux pays confrontés aux attaques djihadistes. Abdelrahman Dia.
Le président nigérian cite l'engagement des deux pays dans ce combat contre Boko Haram. Les Nigérians connaissent et apprécient le rôle que le Tchad a joué pour nous aider à lutter contre le terrorisme et nous continuerons cette collaboration, a déclaré Muhammadu Buhari, cité dans un communiqué de la présidence. Le Nigeria et le Tchad luttent avec le Cameroun et le Niger, autres riverains du lac Tchad, contre les djihadistes de Boko Haram et de sa branche dissidente, l'ISWAP, au sein de la force multinationale mixte. M. Buhari a également proposé son aide pour permettre au Tchad de se stabiliser et de revenir à l'ordre constitutionnel. Nous aiderons dans toute la mesure de notre possible pour parvenir à une transition en douceur dans 18 mois, a affirmé Muhammadu Buhari à son hôte qui s'est dit prêt à se faire guider par le Nigeria, selon Abuja. Mohamed Idriss Déby s'était aussi rendu lundi au Niger où il s'est entretenu avec le président Mohamed Bazoum avant de rendre visite aux 1200 soldats tchadiens déployés dans la zone des 3 frontières.
En RDC, le Sénat a rejeté la demande de lever l'immunité de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. C'était à la suite d'une requête du procureur auprès de la Cour constitutionnelle qui soupçonne M. Ponyo de détournement des fonds. Une nouvelle démarche devrait être ouverte en vue de réorienter l'affaire à la Cour de cassation. Matata Ponyo a toujours qualifié le rapport de l'inspecteur général des finances d'acharnement pour chercher à nuire à sa carrière politique. En RDC, le président Félix Tshisekedi, en visite dans la région minière du Katanga, a annoncé son intention de renégocier les contrats miniers, notamment ceux conclus avec la Chine sous son prédécesseur Joseph Kabila, une révision promise au nom des Congolais qui croupissent toujours dans la misère. « J'en ai vraiment assez, je suis très sévère envers ces investisseurs qui viennent s'enrichir seuls. Ils viennent les poches vides et repartent milliardaires », a fustigé le chef de l'État. Quatre officiers de sécurité sud-soudanais chargés de protéger le gouverneur d'un État du sud du pays ont été tués dans une embuscade sur une route importante pour le commerce avec la RDC et l'Ouganda. Selon le porte-parole du gouverneur, il faisait partie d'un convoi d'officiers de sécurité et de policiers assignés à l'escorte d'Emmanuel Adil Anthony, gouverneur de l'État d'Équateur central où se trouve la capitale Djouba. En Afrique du Sud, le nombre de meurtres a une nouvelle fois augmenté au cours des trois premiers mois de l'année. D'après le ministre de l'Intérieur, 4976 personnes ont été tuées et près de la moitié de ces meurtres sont survenus dans des lieux publics et bâtiments abandonnés. Malgré une baisse sensible de la criminalité, l'Afrique du Sud reste un des plus violents au monde. Le patron de l'OMS a appelé vendredi les pays à renoncer à vacciner les enfants et les adolescents contre le Covid et faire don des doses ainsi libérées au système COVAX. Tedros Adhanom Ghebreyesus a souligné qu'au train où vont les choses, la deuxième année de la pandémie serait beaucoup plus mortelle que la première.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël pilonne la bande de Gaza avec des frappes aériennes et des tirs d'artillerie. L'escalade militaire avec le Hamas dans l'enclave palestinienne a fait plus de 100 morts depuis lundi. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit dimanche. Nathalie Barge.
L'armée israélienne a multiplié les bombardements contre les tunnels qui permettent aux combattants du Hamas de circuler à travers la bande de Gaza. Tsahal a indiqué avoir frappé 150 cibles la nuit dernière. Un déluge de feu doublé de salves de roquettes du Hamas vers les villes israéliennes Sderot, Ashkelon et Beersheva. L'armée israélienne a massé hier chars et véhicules blindés le long du territoire palestinien. Le ministère de la Défense a donné le feu vert pour mobiliser des réservistes. Pour faire face à l'escalade entre Arabes et Juifs, la police aux frontières a été appelée en renfort dans des villes mixtes qui sont le théâtre d'émeutes depuis mardi. Plus de 400 personnes ont été arrêtées ces trois derniers jours. Depuis lundi, 119 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza et 830 personnes ont été blessées selon les autorités locales. En Israël, où le bouclier antimissile a intercepté 90% des 1800 roquettes tirées cette semaine, le bilan est passé à 9 morts et des centaines de blessés.
En Afghanistan, une explosion a fait au moins 12 morts et une quinzaine de blessés dans une mosquée en banlieue de Kaboul. Aujourd'hui, l'attaque a fait voler en éclats le cessez-le-feu provisoire de l'Aïd el-Fitr, peu après le retrait américain de la base aérienne de Kandahar, l'une des plus importantes du pays. Jacques Aristide.
L'attentat s'est produit lors des prières du vendredi, au deuxième jour d'un cessez-le-feu de 3 jours, conclu entre les talibans et les forces afghanes, à l'occasion de la fête musulmane qui marque la fin du Ramadan. Depuis le 1er mai, date à laquelle les États-Unis étaient supposés avoir retiré leurs 2500 soldats encore présents sur place, l'Afghanistan est en proie à une recrudescence des violences. La semaine dernière encore, des avions américains partaient de depuis la base aérienne de Kandahar afin de prêter main forte à l'armée afghane qui tentait de repousser une vaste offensive des talibans. Les insurgés se sont emparés hier d'un district contrôlé par le gouvernement afghan à la périphérie de Kaboul. Washington et l'OTAN se sont engagés à retirer l'ensemble de leurs troupes d'ici le 11 septembre, date du 20e anniversaire des attentats de 2001. L'armée américaine a indiqué hier avoir avancé à hauteur de 6 à 12 % dans son retrait d'Afghanistan.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous passons directement à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Les matchs aller des quarts de finale de la Ligue des Champions CAF débutent ce soir. Les Algériens du Mouloudia Club reçoivent les Marocains du Wydad Athletic Club au stade du 5 juillet d'Alger. Le MC est à la recherche d'un deuxième sacre dans cette compétition. Après celui de 1976, les autres quarts de finale aller se disputeront demain samedi. Les Algériens du CR Belouizdad reçoivent les Tunisiens d'Espérance de Tunis. Les Sud-Africains de Kaizer Chiefs offrent l'hospitalité aux Tanzaniens de Simba. Et les Égyptiens d'Al Ahly feront face aux autres Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. Suite et fin ce soir de notre série sur la présentation des équipes qui prennent part à la première édition de la Basketball Africa League qui débute ce dimanche à Kigali au Rwanda. Nous commençons par les hôtes de la compétition, les Rwandais de Patriots. Marius Munga.
Aux Zambiennes, la valeur n'attend point le nombre d'années. Cet adage s'applique bien au club rwandais, les Patriotes BBC, fondé en 2014 par un groupe des dirigeants d'entreprise. Deux ans plus tard, les Patriotes ont remporté leur premier championnat national. En 2019, ils décrochent leur quatrième titre de champion de Kigali Arena à guichet fermé. Un début de vie tornitruant dans le basket national que les Patriotes voudront confirmer à l'échelle continentale à la faveur de cette Basketball Africa League dont ils abritent la première édition. Bien évidemment, Covid-19 oblige, les Rwandais ne pourront pas bénéficier du soutien direct de leurs supporters dans les gradins, mais ils conservent l'avantage de jouer dans une enceinte qu'ils connaissent. Ces nouveaux venus dans le basketball africain se donnent les moyens de leur ambition en engageant l'Américain Alan Mayer comme nouvel entraîneur-chef en avril dernier. Saura-t-il mettre sur pied des éléments compétitifs à la hauteur des ambitions du club pour cette Basketball Africa League? Une chose est sûre, l'apprentissage au niveau continental ne s'annonce pas facile.
Dans leur groupe A, les Rwandais du Patriotes joueront également les Malgaches du GNBC, Claire Mourinjibou.
Créé en 2012, donc après à peine 9 ans d'existence, Gendarmerie Nationale Basket Club fait figure d'outsider à la Basketball Africa League. Le club a pourtant montré qu'il mérite bien d'être là en arrachant sa qualification dans la Kigali Arena en même temps que le pays hôte, le Rwanda, lors des éliminatoires de la division Est. Une qualification décrochée devant les redoutés Mozambicains de Ferroviario de Maputo. Pour ce faire, GNBC a dû combler un écart de 21 points pour battre le champion du Mozambique, 94 à 90. Constant Fabrice Mandimbison, qui a été très régulier dans les éliminatoires, est à surveiller de près.
Il a enregistré un double-double impressionnant avec 22 points et 10 rebonds pour mener le club malgache à cette qualification.
De quoi donner des ailes à cette formation qui, malgré son jeune âge, a été championne de Madagascar entre 2016 et 2019, vice-championne de l'océan Indien en 2016 et qualifiée pour le championnat d'Afrique des clubs en 2019.
Ils sont logés dans le groupe C et sont connus pour leur défense imperméable. Zoom sur les Mozambicains de Ferroviario de Maputo avec Abdourahmane Dia.
Ferroviario de Maputo est une institution sportive publique ayant 96 ans d'existence. Fondé en 1924, le club basé à Maputo, au Mozambique, ne mettra sa section basketball en place qu'en 1960 et a dû attendre 45 ans avant d'atteindre le sommet national de la balle au panier. C'est en 2005 que les Locomotives, surnom de cette formation, ont remporté leur premier championnat national. Ils ne lâchent plus rien, ou presque, depuis lors. S'en suivra une domination totale du basket national, avec 9 titres de champion du Mozambique, dont 4 consécutifs entre 2005 et 2009. Le club est porté par son coach Milagre Makome et son ailier fort, l'Espagnol Alvaro Calvo, élu MVP en 2018 et 2019. Les Mozambicains ont sécurisé leur place à la balle en battant les City Oilers de l'Ouganda 74 à 57 avec 20 points d'Alvaro Calvo. Ils sont réputés pour leur solide défense.
Merci Abdourahmane Dia.
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manakizado retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. La Côte d'Ivoire, un pays où le taux d'alphabétisation reste encore faible, l'heure est à la promotion de la lecture. Lire c'est bon, lire c'est bien. C'est le slogan de la campagne interafricaine d'incitation à la lecture qui démarre le 26 mai. Une caravane initiée afin de repositionner le livre dans le quotidien des Ivoiriens. D'Abidjan, la correspondance de Siriki Barrow.
Joby King est enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est déterminé à inculquer le goût de la lecture aux Ivoiriens. Pour acquérir la connaissance, il faut s'adonner à la lecture. C'est l'idée qu'il met en avant pour la campagne interafricaine d'incitation à la lecture dont il est le directeur central.
Les élèves et les étudiants sont régulièrement en contact avec les enseignants et les livres qui sont loin des livres. Il en est de même de ceux qui sont sortis de l'école qui sont aussi loin des livres. Le vrai problème qui devient l'Afrique, c'est la connaissance. Or, la connaissance ne peut s'accomplir sans une relation formelle avec le livre.
Pour faire naître la passion de la lecture chez les élèves, le collège Guchan-Rollin dans la commune de Yopougon, au sud d'Abidjan, a trouvé une technique. Mbaye Clément est éducateur dans cet établissement d'enseignement privé.
On va instaurer dans notre programme ici des séances de bibliothèque où on amène les enfants à lire des œuvres et en fait les résumés à présenter à chaque professeur de français.
Une méthode que les élèves semblent apprécier à l'image de Nadège Camara, élève en classe de première. Le manque d'intérêt pour la lecture a durement impacté le secteur de la vente des livres. Très peu de librairies gardent encore leurs portes ouvertes. La responsabilité des parents et l'avènement du numérique sont en partie responsables de cette situation. C'est ce que pense Onda François. Et tiens, il est directeur Côte d'Ivoire des éditions L'Harmattan.
Les parents même sont très souvent la base aussi de cette situation. Si moi par an je me mets à lire, je pense que les enfants vont suivre le pas. Aujourd'hui, le numérique a pris le temps et les parents ne font aucun effort pour amener les enfants à une responsabilité au niveau de la lecture de sa vie.
La campagne interafricaine d'incitation à la lecture débutera d'abord dans les écoles de la capitale ivoirienne avant de se poursuivre dans le reste du pays. Siriki Barrow, Abidjan, pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Cap sur Johannesburg, en Afrique du Sud, pour arpenter les rues de Hillbrow, l'un des quartiers les plus déshérités et dangereux du centre-ville. L'association Dlalanje, qui signifie « joue simplement » en Zoulou, fait visiter ce quartier à plus de 20 000 touristes et utilise les profits pour financer des projets pour soutenir les jeunes des quartiers pauvres. Dralanje espère ainsi changer la perception d'un quartier pauvre et surpeuplé, connu pour sa violence, sa criminalité et ses activités illicites. Jacques Aristide nous en dit plus.
Un parcours, une virée dans un quartier d'importance historique et architecturale. Au cours des années 1970, au plus fort de l'apartheid en Afrique du Sud, Hillbrow, autrefois réservé aux Blancs, s'ouvre à toutes les races et ethnies. La banlieue, l'une des parties les plus populaires et cosmopolites de Johannesburg, un endroit également connu comme un havre pour la communauté gay. Mais à la fin des années 1990, Hillbrow devient un quartier notoirement dangereux, touché par le trafic de stupéfiants, les gangs, la prostitution et la pauvreté, et rempli de bâtiments abandonnés et occupés illégalement. Grant Kobo, guide touristique de l'association Del Alanji.
Nous vous emmenons dans les rues de Hillbrow et nous vous montrons tout ce que vous devez savoir du quartier. Nous essayons de remettre un peu en question votre perception, votre façon de voir les quartiers déshérités.
À partir des années 2000, des projets de rénovation urbaine voient le jour. Del Alanji propose des visites guidées à pied dans les quartiers de Hillbrow, Berea et Yeovil. Patrick Castaner, un touriste.
Nous sommes arrivés en Afrique du Sud ce matin et nous sommes tout de suite venus ici. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est la diversité de ce que nous avons vu dans un périmètre si réduit.
La balade se fait à travers les rues et marchés de Hillbrow et se termine au 51e étage de la tour Ponte City qui offre une vue imprenable sur Johannesburg. Nicolaus Bauer, cofondateur de l'association Del Alanji.
Johannesburg n'est pas considéré comme une destination touristique traditionnelle en termes de lieux à visiter lorsque vous venez en Afrique du Sud. Mais ce n'est pas seulement pour les touristes étrangers venant de l'extérieur du pays ou même le reste du continent africain. C'est aussi pour les habitants de Johannesburg à qui l'on a dit que ces zones étaient des zones à éviter et qu'elles ne devaient être visitées que par les désespérés et les toxicomanes.
Avec les profits récoltés, l'association finance des projets communautaires pour aider les jeunes du quartier.
Certaines personnes peuvent nous accuser de faire du slum tourisme, tourisme de la misère ou du poverty porn, porno de la pauvreté. Mais pour être honnête, nous avons passé ce débat. Nous avons trouvé notre capacité à offrir des opportunités aux jeunes de ce coin, de Johannesburg, souvent mal compris. Et nous le faisons en organisant ces visites. Sans ces visites, nous ne pourrions pas avoir ces centres communautaires.
Plus de 20 000 visiteurs ont parcouru les rues de Hillbrow avec Del Alanji depuis 2012. Les organisateurs ont lentement redémarré les tournées après une interruption due à la pandémie de Covid-19.
Les Américains vaccinés contre le Covid-19 peuvent dire adieu aux masques selon les centres de contrôle et prévention des maladies, CDC en sigle. Environ 35% de la population américaine, soit plus de 117 millions de personnes, sont totalement vaccinées. Elles peuvent donc participer à des activités en intérieur et en extérieur, petites ou importantes, sans porter de masque ni respecter la distanciation physique, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires. Marius Muhunga a joint à Washington le docteur Olivier Chianimbaya, spécialisé en maladies infectieuses.
Et cette décision, s'il faut le dire, a été motivée par d'abord l'appui sur des données scientifiques qui ont pu démontrer que les personnes vaccinées étaient protégées en rapport avec l'infection du virus Covid-19.
Si vous avez eu les deux vaccins, vous ne pouvez ni contracter le virus ni le transmettre.
Le vaccin qui est administré présentement est un vaccin qui a passé tous les différents tests requis et a démontré son efficacité en termes de protection. Pour ceux qui reçoivent la dose complète, c'est-à-dire les deux doses qui sont requises pour pouvoir atteindre le seuil maximum de protection requise contre le virus. Donc, nous pourrons comprendre que le vaccin, de la manière dont il a été conçu, protège contre la forme du virus avec laquelle il a été testé.
Est-ce que les gens qui sont vaccinés, qui ont eu les deux doses, sont-ils protégés contre le variant indien, sud-africain ou brésilien?
Il y a certaines études jusque-là qui ont démontré une relative baisse de l'efficacité de ce vaccin par rapport à certaines de ces variantes, mais ils continuent à protéger. Et comme vous pouvez le savoir, les études sont encore en cours pour pouvoir arriver à établir de manière effective si la version actuelle du vaccin que nous avons, qui est administré, peut protéger à 100% contre ces nouvelles variantes. Mais à cela s'ajoute le fait que les firmes pharmaceutiques, ici déjà, travaillent ardemment pour pouvoir mettre au point des formes améliorées du vaccin pour pouvoir faire face à ce problème de variant.
Alors, si ces formes améliorées venaient à être fabriquées, ceci veut dire que même ceux qui ont eu les deux doses pourront être invités à avoir une troisième dose, alors ?
Ce pourrait être une éventualité, mais nous ne sommes pas encore vraiment là.
Le docteur Olivier Chiani Mbaya, spécialisé en maladies infectieuses, joint à Washington, D.C.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Californie et le Texas, les deux États américains les plus peuplés, rivalisent depuis fort longtemps pour attirer les entreprises et les talents. Les données du recensement de 2020 montraient que le Texas y réussit mieux, attirant plus de gens, y compris des Californiens. Elizabeth Lee de La Voix de l'Amérique explique le récit de Lionel Gahima.
Tout est plus grand au Texas. Quiconque vit dans l'état de Lone Star a déjà entendu ce dicton. Par sa taille, c'est le plus grand état des États-Unis et sa population augmente. Alex Backus, résident du Texas, ne cache pas sa préférence.
La qualité de vie est tellement meilleure ici à Austin.
Son père au foyer a déménagé à Austin, la capitale de l'État du Texas, il y a 2 ans. Il a quitté la baie de la Californie pour sa fille adolescente qui doit aller à l'université.
La plupart des enfants qui vivent dans la région de la baie et qui obtiennent leur diplôme ont en quelque sorte besoin de partir parce que c'est cher. Et j'ai en quelque sorte pensé à Austin, qu'il y avait une chance qu'elle pourrait réellement choisir Austin pour aller à l'université et commencer sa vie.
Ce père est un exemple vivant de la raison pour laquelle il y a cette rivalité de longue date entre le Texas et la Californie. Bill Fulton, directeur de l'Institut de recherche urbaine de Rice University au Texas, a vécu dans les deux États.
Ce sont les États les plus peuplés des États-Unis. Ils ont tous deux une sorte d'identité d'État-nation qui ne ressemble à aucun autre État américain.
Le Texas a récemment remporté le concours de popularité selon le Bureau américain de recensement. Et l'impact se fera sentir jusqu'à Washington, la capitale. Pour la première fois dans l'histoire, la Californie, bastion démocrate, a perdu un siège au Congrès américain parce que sa population a légèrement diminué. Par contre, le Texas, à tendance républicaine, le plus grand des 50 États, a remporté 2 sièges de plus au Congrès. Bill Fulton, de l'Institut Kinder pour la recherche urbaine de l'Université Rice, explique.
Lorsque les prix des maisons augmentent en Californie, de plus en plus de gens viennent au Texas.
L'émigration pour fuir les États plus coûteux, comme la Californie et New York, s'est accélérée pendant la pandémie. Eric Willett, de la société immobilière commerciale CBRE.
Les États qui ont connu le plus d'émigration l'année dernière sont également ceux qui en ont connu le plus en 2019. Il s'agissait simplement d'une voie accélérée de l'émigration.
Un Californien célèbre qui a déménagé au Texas pendant la pandémie est Elon Musk, le cofondateur de Tesla et SpaceX. Le siège de la production de Cybertruck de Tesla et le Spaceport de SpaceX se trouvent au Texas. Les sociétés de technologie Oracle et Hewlett-Packard, ainsi que la société immobilière CBRE, ont déménagé leur siège au Texas, réputé pour son environnement propice aux affaires. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a un exode massif d'entreprises de Californie. Eric Willott, directeur de la recherche de la société immobilière CBRE.
De plus en plus, les entreprises cherchent à diversifier leurs employés et il est logique que ces entreprises cherchent ailleurs pour continuer à élargir leur accès aux talents.
Les investisseurs étrangers ont également remarqué le Texas, déclare Job Hammond du Conseil des agents immobiliers à Austin.
J'ai travaillé avec des investisseurs de Malaisie et du Népal, de Shanghai et de Pékin, d'Allemagne et d'Italie et même du Mexique.
Pour Alex Bacchus, le Texas est peut-être moins cher et offre une meilleure vie sociale, mais ces étés sont également beaucoup plus chauds que le climat plus doux du nord de la Californie, avec beaucoup d'activités de plein air.
J'ai toujours ma maison là-bas, elle est louée, et je me demande si je devrais la garder, parce que je pourrais vouloir y retourner, faire du ski sur la neige me manque.
Et tout en étalant sa nostalgie, il surfe sur le lac Austin et profite des avantages de la vie moins chère au Texas.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci également à la production qui a permis la réalisation de cette édition. Georges Léonard Sagno, Lionel Lunamila Gaïba et Michel Claire-Joseph. Eric Manilakis a été à la présentation. Ainsi va le monde d'aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.